Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce séminaire du coup de recherche participative de la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Donc moi je suis Hélène Chauveau, je suis chargée de projet au service culture sciences société et j'animerai cette séance aujourd'hui. Donc on se retrouve pour cette septième séance de la saison 2020-2021 et je rappelle que ce séminaire il prend place dans l'activité de la boutique des sciences de l'Université de Lyon, qui est donc un dispositif de recherche participative qui met en lien la société civile avec le monde de la recherche. Et nous proposons, du coup, depuis 2019, ce temps mensuel d'échange de bonnes pratiques et de réflexion méthodologique sur le thème des recherches académiques qui sont coproduites avec les citoyens, dites donc recherche participative. J'indique juste que ces séances sont enregistrées pour être disponibles ensuite en podcast sur notre site. Donc voilà, ne vous étonnez pas si nous sommes enregistrés. On réutilise voilà, simplement le son. J'en profite pour vous dire que les séminaires de la saison dernière donc sont disponibles sur le site de la boutique des sciences, rubrique ressources podcast. Et donc cette année, on s'est retrouvés chaque mois autour d'exemples de recherches participatives assez variées sur des thèmes comme le rôle dans la médiation, le rôle de la médiation dans les sciences participatives, des recherches sur les jardins, le co-design, les impacts d'une boutique des sciences. Et puis la prochaine séance, elle aura lieu en présentiel à Lyon, le 23 juin, avec le collectif Policité qui travaille, lui, sur les rapports police-population. Aujourd'hui, donc, on est très heureux et heureuse d'accueillir nos collègues tunisiens et sénégalais qui vont nous présenter leur boutique des sciences et puis décortiquer chacun un projet ou une expérience, en tout cas, qu'ils ont accompagné pour en comprendre un peu les apports et les limites. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de Teams avec le logo Converser. Je vais laisser nos invités du jour se présenter plus en longueur et puis nous raconter leurs projets et leurs enjeux avant d'échanger avec vous. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. Et puis, je vais laisser auparavant un petit mot d'introduction à Florence Bélaïne, qui est directrice du service sciences sociétés de l'Université de Lyon, pour un petit mot d'introduction et puis un mot d'hommage également à notre collègue Florence Piron. Voilà, je te laisse prendre la parole, Florence.
Merci Hélène. Bon, merci à tous d'être là, connectés. Vraiment, c'était important. Comme le disait Hélène, on a plusieurs séminaires. Je ne sais pas si vous les suivez, hein, si, mais c'était super riche pour nous d'aller voir du côté de l'Afrique de ce que vous faites, comment fonctionnent vos boutiques des sciences, leur diversité, leur fonctionnement. Donc vraiment, c'est vraiment chouette d'avoir ce panel divers pour plonger un peu de comment vous fonctionnez et puis comme on disait Hélène sur la méthode, sur les postures, sur le modèle, etc. On avait l'intention, alors c'est vrai que c'est une séance qui est reportée. On était tous pris dans l'émotion l'autre jour par le départ de Florence Piron. Donc on a souhaité avec l'équipe de la boutique des sciences maintenir un petit hommage. On a écrit un texte sur le site de la boutique des sciences. Et vraiment, on voulait tous rappeler la chercheure que c'était quand même une femme qui a un parcours en philosophie, en éthique, et je pense qu'était quelqu'un de brillant, en fait, vraiment, qui avait une vision de la recherche au-delà des normes, au-delà des contingences, mais qui avait une vision très très large. Je pense qu'elle était assez visionnaire de l'université. Elle a pas hésité à quitter un peu tout ce qui est ranking international, classement, etc., pour être sur le terrain. Comme vous le savez tous, elle a construit déjà une boutique des sciences qui est un vrai modèle à l'Université de Laval, qui a son propre fonctionnement et que moi j'avais visité. Et c'est vrai que vraiment, on voyait que c'était vraiment implanté et que c'était un modèle pour nous tous. Et puis, elle a donc soutenu tout ce réseau. Avec toutes les boutiques de sciences africaines. Donc, je pense qu'on lui doit tous beaucoup. Et c'est important, je pense, qu'on salue la chercheuse, la manager de projet, hein, qui quand même était une manageuse de projet en même temps dans le business, en même temps dans le faire, dans les nouvelles technologies. Moi, elle m'a toujours beaucoup épatée. Et puis, la personne humaine que c'était. Vraiment, vous la connaissez aussi bien que moi, chaleureuse, accessible, joyeuse, énergique. Donc voilà, je pense qu'on peut saluer toute sa mémoire, parce que c'est ce que j'ai écrit, on a écrit dans le texte en disant que c'est, elle va durer longtemps. Elle est partie trop tôt, mais elle a tellement fait que je pense qu'il va nous falloir encore du temps pour digérer tout ce qu'elle a fait, en fait. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent rajouter un petit mot à cet hommage virtuel.
Si je peux, vous m'entendez?
Vas-y, chez moi.
Bon, je voulais juste ajouter tout simplement que bah, moi, on est rentré dans la communauté des boutiques des sciences, donc grâce au projet InSpace, on aura l'occasion d'en parler, et que très rapidement, j'ai compris l'importance de Florence Piron dans cette communauté, que ce soit dans la communauté francophone, mais également dans la communauté des boutiques des sciences de manière générale, et notamment au niveau de ce qu'on appelle le réseau Living Knowledge. Et voilà, c'est une personne qui fait vraiment référence à plusieurs titres, qui sert de modèle réellement et avec laquelle j'ai énormément apprécié échanger sur nos pratiques et qui m'a beaucoup influencé sur la manière dont on pouvait mener notre boutique des sciences. Voilà.
D'autres réactions, d'autres remarques? Bon, merci en tous les cas. Voilà, c'était notre manière à faire et d'être avec elle en ce jour. Hélène, je te repasse la main pour le séminaire.
Ouais, super, pas de souci. Eh ben, on va d'abord écouter Hichem qui va nous parler un petit peu de la boutique des sciences de Tunis et de son fonctionnement, et puis Ayette qui nous fera son retour d'expérience en tant que chercheuse dans cette boutique des sciences. Voilà, comment elle a pu travailler avec et qu'est-ce que ça a pu lui apporter. Ensuite, on écoutera Hassan qui nous présentera un petit peu la boutique des sciences de Dakar. Et puis Binta qui nous présentera un projet ou en tout cas une dynamique en particulier menée par cette boutique des sciences là. Voilà, on a 1 heure, un petit peu plus d'une heure, donc on a le temps, mais on est nombreux, donc voilà, essayez de tenir vos temps pour qu'on puisse échanger aussi après avec les personnes qui sont présentes. Merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes. Hichem, je te laisse la main.
Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Voyez mon écran?
Oui, c'est bon.
Ok. Bon, allez, on commence. Donc, eh bien, merci beaucoup. Merci encore à l'Université de Lyon de votre invitation à donc faire part de notre expérience ici à l'Institut Pasteur de Tunis dans la mise en place d'une boutique des sciences. En Tunisie, qui est donc la première boutique des sciences à notre connaissance, en tout cas en Tunisie et je crois même en Afrique du Nord. Donc, bon, l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de vous donner un état des lieux de la manière dont on a fonctionné jusqu'à présent. Et ensuite, donc, comme tu disais, Hélène Hayet Moussa, qui est un chercheur, qui a été impliqué donc dans des projets boutique des sciences de l'Institut Pasteur de Tunis, qui fera part de son expérience. Alors, moi j'aime bien revenir sur les raisons pour lesquelles Ah, mon écran qui a disparu, excusez-moi. Voilà. 2 secondes. Vous voyez, c'est bon?
Oui, on voit toujours.
Ok, pardon. Donc c'est contexte favorable, normalement vous êtes. Donc là, j'aime bien revenir sur les contextes qui font que, pardon, on se lance un peu dans cette aventure. Et l'idée, en fait, c'est que à l'Institut Pasteur de Tunis, pour aller très rapidement, on est quand même une structure publique au service du citoyen tunisien. Et nos missions concernent la santé publique, que ce soit au niveau du diagnostic, donc on est beaucoup impliqué sur les activités de diagnostic et d'enquête en santé publique, mais également sur la recherche en santé publique et également dans la production de vaccins et de sérums pour les besoins des pays. Donc, si vous voulez, dans nos missions, il y a, je dirais, toutes les raisons d'interagir avec la société. Ensuite, il y a, bon, je pense que tout le monde le sait, une révolution qui a eu lieu il y a une dizaine d'années en Tunisie, qui a vraiment permis la naissance d'une société civile extrêmement active et impliquée dans le processus décisionnel. À titre d'exemple, il faut savoir que dans les 10 projets qu'on a mis en place depuis le début depuis le lancement de notre boutique des sciences, seulement une a été créée avant la révolution. Donc, c'est encore un signe très intéressant de l'impact de cette société civile et de son intérêt pour les interactions sciences et société. Et puis, à côté de ça, on a quand même un système de recherche et d'innovation qui est en train de se poser des questions, quand même, qui est davantage à l'écoute des besoins de la société, qui se dit que bon, on ne peut pas comme tout constamment être dans notre tour d'ivoire et qu'il faut peut-être commencer à réfléchir à interagir davantage avec la société de manière à ce que donc on soit au service vraiment des besoins sociétaux et de la résolution de ces problèmes. Donc ensuite, on a un cadre qui est super intéressant et je pense que tout, au niveau des programmes européens, notamment à l'Université de Lyon, c'est un cadre qui a été pertinent à exploiter, qui est donc la recherche et l'innovation responsable, qui est, si vous voulez, le cadre principal qui régit toutes les interactions sciences et sociétés dans le cadre du programme H2020 et qui nous a beaucoup intéressés parce que finalement on s'est rendu compte qu'on faisait pas mal de choses qui étaient définies par ce cadre de la recherche et l'innovation responsable qui a 6 piliers dont la gouvernance, pardon, l'engagement envers les citoyens, mais également tout ce qui est éthique, éducation scientifique, l'égalité des genres et la gouvernance participative. C'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré même avant qu'on soit impliqué donc dans le projet Inspires qui nous a permis vraiment de lancer cette boutique des sciences. Donc ce projet Inspires, dans lequel est impliquée l'Université de Lyon, implique des partenaires plus ou moins expérimentés dans donc la recherche participative et notamment les boutiques des sciences. Donc on a des partenaires expérimentés comme Lyon, le VU Amsterdam, IRSI CAICHA à Barcelone et d'autres partenaires qui donc s'inspirent des méthodologies des partenaires expérimentés comme nous, ou bien les Boliviens ou les Italiens. Et à côté de ça, nous, on a décidé d'impliquer les parties prenantes de plusieurs secteurs, donc de la recherche académique, mais également de la société civile, des associations d'étudiants, des associations de chercheurs qui sont intéressés par les interactions sciences et société, et puis aussi les centres de recherche qui ne sont pas forcément dans la santé, mais qui sont plutôt dans l'environnement. C'est quelque chose qui nous intéresse également. Alors, la mise en place. Très concrètement, nous, on s'est lancé un peu comme ça. Quoi. On a dit, bon, ben voilà, maintenant, on a un projet Inspires, donc dont l'objectif est de mettre en place cette boutique des sciences. Donc, on va se lancer. Donc, le chemin se fait vraiment en marchant. Donc, première chose, on a fait quelque chose qui est de s'inspirer, comme je disais, des partenaires d'Inspires, et notamment de Lyon, qui donc lance un formulaire tous les ans, il me semble. Et donc, on s'est pas mal inspiré de ce formulaire et on vous en remercie à nouveau. Donc, on lance un formulaire et on a lancé notre premier appel en 2017 pour la mise en place d'un seul projet pilote. Ensuite, on a donné un nom à notre boutique des sciences parce que le concept de boutique des sciences, quand on dit boutique des sciences, c'est assez trompeur. On a l'impression qu'on vend la science alors que c'est tout le contraire. Donc, on lui a donné un nom qui s'appelle Science Ensemble, El Al-Mabad en arabe. Et ensuite, on a maintenu donc ces appels chaque année en 2018 et en 2019. En 2020, on ne l'a pas fait à cause du corona. Ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a quand même recueilli 120 besoins en 3 ans, soit une moyenne de 40 besoins par an. Alors, tous ne sont pas sérieux, mais c'est quand même un signe extrêmement fort de la part de la société civile, de son intérêt donc de collaborer avec la recherche et surtout qu'elle fait confiance à la recherche pour résoudre des besoins sociétaux. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, on a mis en place 10 projets depuis 2017, donc dans le cadre de notre boutique des sciences. Alors, très rapidement, notre fonctionnement, c'est que donc on a une collecte des besoins qui se fait en septembre, donc ça va être pendant un mois. Ensuite, on a la sélection des besoins qui se fait sur plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais en gros, on a plusieurs étapes pour filtrer les besoins et les sélectionner pour vraiment garder les plus pertinents et les mieux formulés, on va dire. Ensuite, quasiment en même temps, on a la reformulation donc, des besoins en projet de recherche, la sélection des étudiants, et ensuite l'implémentation qui a lieu en général entre février et août, et la restitution, la diffusion des résultats, et l'évaluation qui a lieu en général en septembre. Donc c'est un processus qui est sur une durée d'un an, donc c'est assez conséquent, et il y a un suivi donc très régulier de la part de la boutique des sciences et un accompagnement de la boutique des sciences. Voilà, donc ça, c'est la liste de nos projets. Je ne vais pas les citer, mais en gros, ces projets concernent plusieurs, vraiment plusieurs thématiques. Donc, on a travaillé sur le diabète, on a travaillé sur les mesures d'audition, sur l'hépatite C, sur le VIH, sur la pollution environnementale et ses conséquences sur la santé. On a travaillé sur le cancer du poumon, donc on a des chercheurs qui travaillent dessus. On a travaillé sur la santé mentale des étudiants en thèse, et ça fait l'objet d'un projet transfrontalier, avec des Italiens. On a un projet spécifique sur les challenges éthiques des projets boutiques des sciences, parce qu'on a un comité d'éthique extrêmement bien construit à l'Institut Pasteur Tennis qui nous accompagne à plusieurs titres, que ce soit dans l'évaluation éthique, mais aussi dans le montage des projets, de manière à ce qu'ils respectent vraiment les normes éthiques. Et donc d'autres projets sur l'hépatite A et aussi sur les comportements à risque des chiffonniers, donc ce qu'on appelle... Je ne sais pas si c'est le bon terme, chiffonnier, mais en gros, ce sont les gens qui font les poubelles. Et donc, en Tunisie, on les appelle les berbèches. On a donc, je vous disais, un accompagnement régulier de la boutique des sciences, plusieurs formations qui sont assurées pour les différents acteurs donc des projets boutique des sciences, que ce soit les étudiants, les chercheurs, les membres de la société civile. On a mis en place des webinaires. Et puis, donc, notamment avec Lyon, on a mis en place une formation il y a 2 ans, qu'on a appelée l'école de printemps, pour former des gens de la société civile, des chercheurs, des étudiants, de potentiels porteurs de projets de création de boutiques des sciences dans le cadre du projet INSPIRE, donc il y a 2 ans. Et c'était quelque chose qu'on a vraiment envie de maintenir ici en Tunisie. On met en place donc des restitutions et des évaluations. Donc, ces restitutions sont l'objet de plusieurs types, peuvent être diverses. Donc, on met en place des plaidoyers, des conférences scientifiques, forcément, et les soutenances des étudiants. Et il y a quelque chose qui est très important pour nous, qui est la restitution auprès des communautés donc, qui ont été impliquées dans ces projets. Et on utilise aussi la plateforme INSPIRES, dont vous voyez l'adresse en bas à droite, pour évaluer nos projets. Cette évaluation, elle permet déjà de donner une grande visibilité aux différents acteurs impliqués dans les projets, mais vraiment d'avoir un retour très formel par rapport de chaque acteur dans les projets boutiques des sciences. Voilà, donc je ne sais pas si je peux encore parler. Hélène, j'ai encore 2 minutes.
Oui.
D'accord. Donc le financement, c'est important. Bon, le financement, il est assuré donc durant toute la période du projet INSPIRE, donc entre 2017 et 2021, sauf que INSPIRE s'arrête le 30 juin. Donc là, on est en train de lever des fonds depuis plusieurs mois. Ce financement nous a permis de recruter les ressources humaines, donc que ce soit le personnel de la boutique des sciences et les bourses d'étudiants. Il nous a permis d'allouer des budgets à la réalisation des projets, que ce soit du consommable ou les frais de déplacement, etc. Et puis, donc on a mis en place, donc, comme je vous disais, des événements et des formations. Donc, pour certaines, avant 2020, bien entendu, elles étaient donc en présentiel et il y avait la nécessité donc, de financer ces événements. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est l'ancrage institutionnel. C'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté au sein de l'équipe. C'est que, on a une boutique des sciences qui a été créée dans le cadre d'un projet européen, mais ensuite, on veut qu'elle reste. Donc, on a fait en sorte que cette boutique des sciences ait un ancrage institutionnel et dès le début, et on est très reconnaissant à notre institution d'avoir soutenu donc la création de cette boutique des sciences. Et donc, on a mis en place je reviens sur la deuxième idée, c'est que l'idée de cet ancrage institutionnel, c'est de montrer que la boutique des sciences, elle répond aux missions de l'institution. C'est très, très important. Les projets boutique des sciences répondent aux missions fondamentales de notre institution, donc qui est la recherche en santé publique et le service aux citoyens dans le domaine de la santé publique, et notamment avec des populations qu'on appelle vulnérables. Et donc, en 2021, on a soumis, tout début 2021, on a soumis un projet au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en Tunisie pour la création d'une unité de soutien. Donc, ce sont des unités qui soutiennent les activités de recherche des instituts en Tunisie, qu'on a appelé Communication en sciences et société, et donc qui aujourd'hui assure la pérennisation institutionnelle de la BDS. Donc ça c'est son logo, temporaire pour l'instant. Alors, elle ne nous assure pas le budget de la boutique des sciences, mais au moins, elle nous assure l'existence officielle et on va dire définitive, je l'espère, de cette boutique des sciences. Voilà. Je vais terminer tout simplement pour vous dire que demain, on a la restitution de nos 10 projets. Donc, ce sera en présentiel, bien entendu, à l'Institut Pasteur de Tunis. Mais on a une retransmission en direct sur notre chaîne YouTube. Et donc, c'est à 9h30, heure de Tunis, soit 8h30 en France. Et me semble-t-il aussi, je crois que, non, pardon, 10h30 en France et 8h30 au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup.
Super. Merci beaucoup, Hichem, pour... ton efficacité et ta clarté. C'est vraiment intéressant de voir comment s'est montée cette boutique des sciences. Je pense que ça va être d'autant plus intéressant d'entendre le témoignage de Hayette, du coup, sur voilà, comment elle a vécu peut-être quelques projets qu'elle a pu accompagner dans ce cadre-là et qu'est-ce que ça lui a fait en tant que chercheuse et comment elle a pu participer et voilà, comment, en tant que chercheuse, elle a pu s'intégrer dans ces projets-là. Et comment d'un point de vue méthodologique et épistémologique, elle a pu se confronter aussi à ces pratiques-là, peut-être un petit peu différentes des habitudes. Voilà, je vous laisse prendre la parole.
Ton micro, Hayette.
Ouais. Oui, c'est bon.
Voilà, donc je me présente, Hayette Moussa. J'ai un parcours un peu particulier. Et en fait, j'ai travaillé quelques années au ministère de la Santé, ce qui m'a rapprochée de l'Institut Pasteur, puisque je fais partie du comité d'éthique de Pasteur, je suis vice-présidente, et donc j'ai un peu des affinités comme ça avec l'Institut Pasteur. Donc, Hichem m'a proposé de participer à cette expérience, et en fait, ça correspondait beaucoup à ce que moi m'intéressais. C'est-à-dire de réfléchir à la recherche, non pas la recherche pour la recherche, mais la recherche appliquée, la recherche à la science. Donc, en fait, en plus, donc moi je suis socio-anthropologue, j'enseigne au département d'anthropologie et j'ai un cours qui s'appelle Anthropologie de l'intervention, où je discute justement avec les étudiants. Des questions d'épistémologie, des questions de distanciation, de neutralité, de rapport aux acteurs, etc. Et donc, c'était vraiment une expérience qui me permettait de concrétiser un peu mes réflexions et ma façon de voir la recherche. Voilà, la recherche fondamentale, ok, je pense que c'est important, mais qu'on ne dénigre pas, et c'est toujours un peu le problème. La recherche qui est une recherche action est souvent très mal perçue. Et nous, on est un peu sur le modèle français en Tunisie, c'est-à-dire que dans des passages de grade, par exemple, tout ce qui a été fait dans le cadre de consultations ou d'appels d'offres avec des partenaires associatifs ou institutionnels n'est pas pris en compte parce que ce n'est pas considéré comme de la recherche. Voilà. Et donc, un des objectifs de ce cours, qui d'ailleurs intéresse beaucoup les étudiants parce qu'ils sont un peu plus pragmatiques, on va dire, c'était vraiment de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la recherche et est-ce que quand on fait de la recherche qui est de la recherche pour l'action, je ne vais pas dire recherche-action, mais pour l'action, pour le changement, est-ce que d'emblée on est en dehors de la science ou est-ce que en fait on respecte les canons de la recherche? Et que ce n'est pas parce qu'on est dans un partenariat avec des acteurs et associatifs et des acteurs individuels, etc., qu'on va zapper tout ce qui est exigence méthodologique, épistémologique, pour faire un peu n'importe quoi. Et voilà. Donc, vraiment, c'était quelque chose qui correspondait à ma vision de voir la recherche. Et donc, et puis j'ai toujours eu ce souci, moi je suis une qualitativiste, hein, je travaille pas du tout sur le quantitatif, et j'avais toujours ce souci ou cette espèce de culpabilité vis-à-vis des acteurs qu'on interroge, on prélève des informations, on est tout content, on rentre chez nous, on écrit des articles, etc., des livres, et il n'y a pas de restitution, il n'y a pas de retour aux acteurs. Bon, j'ai eu deux expériences sur des enquêtes auprès des jeunes, mais c'est vrai que ce n'est pas une tradition. Ça semble évident que, bon, une fois qu'ils nous ont donné ce qui nous intéresse, ils n'ont plus rien à faire dans le processus. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait, qui m'a toujours un peu gênée, parce que je pense qu'il faut être capable de restituer aux personnes. Je pense que c'est une histoire de don contre don. Hein. Tu m'as donné ce rang. Et ce rang sous une autre forme, hein, parce que bien sûr, j'ai travaillé dessus, mais ce rang quand même. Voilà. Et donc, j'ai participé. Alors, le challenge, c'était quand même, oui, même si on se dit la recherche pour l'action doit répondre à des canons de recherche, il faut aussi que l'institution accepte et qu'on puisse faire un master, parce que l'idée, là, c'était d'impliquer une étudiante de master en anthropologie. En fait, on a impliqué deux étudiantes, d'impliquer des étudiants et de faire en sorte que leur recherche soit validée scientifiquement. Et donc, essayer à la fois de faire un travail académique qui a la forme académique et dans le même temps, de faire un travail qui puisse donner lieu à quelque chose d'utile, d'utilisable, je vais dire plutôt, d'utilisable pour l'association, lisible, qui puisse utiliser pour un plaidoyer, mais en même temps, être aussi un travail validé par, au niveau académique. Et donc, c'est un peu ça le challenge. Donc, on a eu une convention entre le projet Inspire Faster et l'université dans laquelle j'enseigne. Donc, les deux étudiantes qui travaillent sont dans le cadre de convention. Et voilà, donc, on s'est engagé. Donc, je vais vous présenter un peu la première recherche qu'on a menée, qui est une enquête avec une association qui aide les personnes vivant avec le VIH, qui s'appelle ATP+. Donc, qui est une association qui, à l'origine, a été créée par des personnes elles-mêmes vivant avec le VIH, qui ont fait scission avec une association dont ils faisaient partie en tant que public cible, qui ont créé leur propre association. Et donc, leur demande, c'était de comprendre pourquoi, finalement, il y a beaucoup de ruptures dans la prise en charge, c'est-à-dire que les personnes vivant avec le VIH arrêtent souvent leur traitement, arrêtent les consultations, ne vont plus se faire soigner. Et donc, l'idée, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qui, dans la structure hospitalière, dans l'accueil, dans la prise en charge, constituait un obstacle, ou qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une difficulté et qu'effectivement, il y avait une espèce d'insatisfaction de la part des personnes vivant avec le VIH vis-à-vis de leur accueil et de leur prise en charge au niveau d'un service hospitalier qui est un service référent et qui donc est censé être vraiment un service de pointe et qui surtout a de l'expérience, puisqu'il a été le premier dès le début de l'épidémie en Tunisie. Et donc, voilà, il fallait transformer cette demande de l'association en quelque chose qui puisse faire l'objet d'un travail anthropologique. Et donc, voilà, on a transformé avec l'étudiante et les personnes qui avaient émis ce besoin, on a transformé cette demande en essayer de réfléchir sur l'expérience du soin, l'expérience de la prise en charge. Et du coup, c'est vrai que l'approche qualitative se prêtait tout à fait à ça, c'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de laisser les personnes relater leur passage à l'hôpital, qu'est-ce qu'elles ressentaient, comment elles étaient accueillies. Et donc, on a vu effectivement beaucoup de choses sortir qui étaient intéressantes. Donc, je n'ai pas présenté les résultats, mais en tout cas, juste quelques résultats. Par exemple, on s'est rendu compte qu'au niveau du personnel paramédical, il y avait une espèce de perméabilité aux stéréotypes sociaux et aux préjugés qui fait qu'effectivement, elles étaient plutôt maltraitantes vis-à-vis de ces personnes, que dans certains services qui n'étaient pas habitués, mais qui sont des services de référence qui sont fréquemment utilisés par les médecins, infectiologues, on s'est rendu compte que les personnes étaient vraiment mal accueillies, qu'elles attendaient des heures avant de passer parce qu'on pensait qu'elles étaient contaminantes, que leur dossier se balade avec un tampon, avec écrit en feutre rouge « personne vivant avec le VIH ». Donc, on a vraiment vu dans le discours des personnes apparaître des éléments qui nous ont fait comprendre que vraiment, c'est tout à fait compréhensible que des personnes aient envie d'être confrontées à la stigmatisation, de la discrimination au sein même d'une structure dans laquelle ils sont censés, en plus c'est une maladie chronique, donc c'est des gens qui vont très souvent à l'hôpital, donc qui n'avaient pas du tout envie d'être exposés régulièrement à ce type de problèmes d'accueil, de prise en charge, de soins, etc. Et voilà, donc tout ça doit servir à élaborer un plaidoyer. Bon, on a vu aussi qu'il y a des problèmes structurels qui visiblement sont un peu contingents, mais d'accès au traitement. Et quand on sait que les personnes VIH ne peuvent pas arrêter leur traitement, et donc on a vu comment aussi il y avait des stratégies, c'est ça aussi le qualitatif. On a vu comment en fait les personnes se passent les médicaments, se les prêtent, voilà, et tu m'en passes une plaquette, tu la rendrais quand j'aurai. Voilà. Donc, c'est un travail qui a permis, effectivement, de comprendre beaucoup de choses au niveau de la prise en charge. Et je pense qu'elle est extrêmement utile parce que même pour l'association, et qu'il a très, très bien vécu d'ailleurs, qui a été très, très satisfaite de ça, c'est-à-dire qu'elle avait des intuitions, elle avait des retours des personnes. Mais bon, maintenant, elle a un matériau scientifique qui permet, avec une recherche qu'a fait une personne qui a fait 20 entretiens, une personne qui a fait des entretiens avec des VIH et des personnes vivant avec des VIH et une autre qui a fait des entretiens avec des personnels de santé, qui a des entretiens qui ont été transcrits, qui ont été codés, voilà, avec une bibliographie. Donc voilà, donc c'est un travail qui peut être validé et qui peut servir vraiment de support pour un plaidoyer. Alors, peut-être juste... le problème qu'on a eu quand même, moi j'ai eu un peu des problèmes au début et j'en ai beaucoup parlé avec Hichem, c'est qu'en fait, quand on travaille avec les associations, ils ont une espèce de paternalisme. Il y a une espèce de paternalisme et le sentiment que la population, presque, elle leur appartient. Et que en fait, les questions éthiques, elles deviennent cruciales. Voilà, c'est-à-dire que quand on demande à une personne vivant avec le VIH, suivie par l'association, sachant qu'il y a des enjeux d'aide, de pouvoir, etc., il faut qu'effectivement, on soit sûr que cette personne dit oui parce qu'elle a envie de répondre et pas oui pour faire plaisir à la directrice ou à la présidente de l'association. Donc vraiment, on a essayé de travailler sur l'aspect éthique, on a beaucoup travaillé sur cette question éthique pour s'assurer sortir le discours, pas la success story, mais la catastrophe story plutôt, pour voilà, le scénario catastrophe. Et donc, on a été aidé heureusement par une psychologue qui venait d'arriver dans l'association, qui n'était pas trop formatée justement par l'association, qui a servi d'intermédiaire. On a aussi déposé un dossier éthique au comité d'éthique qui a été accepté. Et donc voilà, c'est une expérience qui a été très enrichissante, à la fois pour l'association, parce que l'association, du coup, maintenant, elle est très, très, très friande aussi du débat sur l'éthique. On a créé une espèce de sentiment qu'effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les personnes, même si on les aide. C'est des acteurs à part entière et pas des publics. Et voilà, et puis aussi on essaye de faire avancer le comité d'éthique parce qu'il n'est pas habitué à avoir ce type de projet et c'est très compliqué et ça rend Hichem un peu fou de voir que voilà, ça vient, ça repart, le dossier n'est pas compris, il y a des choses qui sont évidentes dans des projets de recherche en biologie ou en je sais pas quoi, en virologie, et que voilà, le scénario est totalement différent dans une recherche. Où il y a une association, ne serait-ce que le fait qu'il y ait deux PI, deux chercheurs principaux. Normalement, dans tout projet, on exige un seul chercheur. Et dès qu'on dit qu'il y a un chercheur principal et un autre chercheur principal, l'association et le représentant de l'association et le chercheur, hop, là, ça bug et on nous dit qu'il ne peut pas y avoir deux chercheurs principaux. Il y a un chercheur. Et donc voilà, donc le comité d'éthique a mis du temps, mais finalement ça a commencé à rentrer un peu dans la manière de réfléchir du comité. Et je vais juste évoquer un deuxième projet. Alors je veux juste dire aussi que l'important aussi c'est cette question de restitution. Hichem l'a évoqué, hein. Je crois qu'il faut qu'on arrête de penser que les gens sont là juste pour nous donner des informations. Et bon, pour les VIH, on avait fait une petite restitution, mais ce n'était pas vraiment les résultats. C'était un peu le début, les premiers résultats préliminaires, mais c'était très important que les personnes qui avaient été, une partie des personnes interviewées soient là, posent des questions et voient aussi que c'était un travail scientifique et qu'on les prenait au sérieux, quoi. Ce n'est pas simplement on a besoin de vous, vous venez, puis voilà, on vous oublie. Et j'ai aussi accompagné un peu en seconde main, je dirais, le projet dont Hichem m'a parlé, qui est un projet pour les personnes qui sont en situation très précaire et qui fouillent les poubelles pour... c'est trop long? Je suis trop longue?
Non, non, pas du tout. C'est donc, bon. Peut-être.
Je vais aller très vite. Qui fouille les poubelles pour ramasser les bouteilles en plastique. Et donc, c'est vraiment un système... c'est un système très important qui n'est pas du tout formalisé. Ils n'ont aucune couverture sociale, ils ne sont pas inscrits à la SNSS, qui est la couverture sociale. Voilà. Donc l'association voulait travailler sur ces personnes et le besoin, c'était de savoir si ces personnes connaissaient les risques du métier et comment effectivement essayer de valoriser ou de favoriser chez eux, chez ces personnes, hommes et femmes, pauvres, hein, on peut le dire, favoriser aussi le sentiment de la prise de risque et donc d'essayer d'être vigilant sur les accidents possibles en fouillant les poubelles, etc. Et puis finalement, le projet a tourné autour de ça, mais aussi l'étudiante qui a travaillé sur cette question a quand même travaillé sur la reconnaissance de ces personnes, comment elles se reconnaissent, quelle place elles pensent occuper dans la société. Et on s'est aperçu que c'est des gens qui se revendiquent comme ayant un rôle social très important, permettant le recyclage, permettant que l'environnement soit moins sale, permettant que voilà, le plastique ne parte pas dans la nature, mais qu'effectivement, il soit retraité et que ça devienne des chaises, des tables, etc. Et donc, la semaine dernière, on a eu une restitution avec 25 de ces personnes et l'association. Et voilà, je trouve que c'était une expérience hyper... en tous les cas, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. De pouvoir, l'étudiante a présenté ça dans une salle qui avait été prêtée par la municipalité. Voilà, donc il y avait un PowerPoint en arabe dialectal, qu'ils comprennent tout ce qui se fait. Il y avait un petit cocktail. Voilà, et je trouve que voilà, c'est important de faire savoir aux gens qu'on travaille pour eux et pour l'association, mais que en dernier ressort, ce sont eux qui sont bénéficiaires de tout ce savoir. Et voilà, donc, voilà. Bon, en tout cas, moi, en tant que Hayat Moussa, je me retrouve parfaitement dans cette façon de faire. De ne pas être ingrate et de ne pas non plus être trop dans ma bulle de chercheur isolée du monde.
Et peut-être vous, justement, en tant que chercheuse, est-ce que, déjà d'une part, est-ce que c'est venu bousculer aussi parfois vos pratiques et voilà, les questionnements aussi, ou peut-être les concepts que vous aviez l'habitude d'utiliser? Est-ce que voilà, c'est venu décentrer peut-être certains éléments? Et puis d'autre part, comment dans la communauté universitaire tunisienne, comment c'est vous êtes perçu peut-être en tant que sociologue qui pratiquait ce genre de recherche-là? Est-ce que c'est facile de partager ce genre de choses? Est-ce que c'est, enfin voilà, vous parliez au début d'un problème de reconnaissance. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ce partenariat avec l'Institut Pasteur donne une forme aussi de légitimité à ce type de pratique?
En fait, c'est très paradoxal parce que en Tunisie, on a très peu de fonds de recherche. Il n'y a pas de labo, il y a très peu de labos, il y a très peu de moyens pour faire de la recherche. Et donc, on est tous plus ou moins amenés à travailler dans ce genre de collaboration avec des associations ou avec des institutions, le PNUD, l'UNICEF, etc. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude, mais paradoxalement, ce n'est pas reconnu comme de la recherche. Voilà. Ou c'est jugé comme... voilà, de la recherche pour de l'argent. Et s'il y a de l'argent, de suite, c'est souillé. Et voilà, c'est pas perçu comme de la vraie recherche où finalement il faut souffrir pour faire la recherche. Voilà, donc, et voilà, comme voilà, si vous avez une aide, l'aide d'une institution ou l'appui d'une institution, c'est vu comme si finalement vous devenez un peu l'expert, avec toute la connotation négative de l'expert qui vient comme mercenaire faire son travail qui repart. Le paradoxe pour moi en tant qu'expérience, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que c'était ça la recherche. Même quand j'ai fait mes études en France et j'avais eu des expériences, j'ai vécu en France et j'ai eu des expériences de restitution de ce type de travail vraiment en proximité. Et quand j'ai enseigné aux étudiants la distance, la rupture avec le sens commun, la neutralité axiologique, ça, j'avais toujours ce sentiment que quelque part il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Donc, mais moi, j'ai toujours été portée plutôt sur ce type de travail. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut le cadrer. Parce que c'est vrai que, ben, je ne sais pas, le nombre de fois où j'arrive quelque part et l'assistante sociale invente un faux prétexte pour faire venir des personnes pour me faire plaisir et je me retrouve avec des gens qui ont des attentes que je ne peux pas satisfaire. Voilà, je pense qu'il y a des côtés éthiques qui sont très importants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cadrer l'expérience à la fois du côté des partenaires, à la fois du côté des personnes qui sont cibles de l'association, par exemple, de l'institution. Voilà, parce que parfois, on a l'impression qu'il y a un réservoir, on puise, et puis, voilà, ils sont là, ils sont disponibles, ils n'ont que ça à faire, ils ne peuvent pas dire non. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a les questions d'éthique sont fondamentales. Mais en termes d'épistémologie, surtout quand on travaille, moi je travaille plus aujourd'hui en anthropologie, et je trouve qu'en anthropologie, il y a cette possibilité quand même d'avoir ce retour réflexif sur ce qu'on fait, où on pose les vrais problèmes et on avance avec. Ce que la sociologie fait moins. Du coup, on fait des arrangements, on fait des bricolages et je pense que voilà, on peut produire de la recherche en étant clair sur pour qui on l'a fait, pourquoi on l'a fait, les problèmes que ça a posé, les questions d'éthique, les questions de restitution, les sentiments qu'on a pu avoir vis-à-vis des personnes. Voilà, ça permet de mettre ça un peu dans un cadre académique pour on part avec le sens, avec l'idée dès le départ. Je sais que je suis dans quelque chose qui est différent de ce qu'on fait d'habitude, et donc je suis consciente. Je suis en train de manipuler, de manipuler ou de dévoyer la recherche, mais j'accepte ça, quoi. Et je
fais attention à certaines choses. Voilà, ok. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Puis c'est intéressant, voilà, cette notion de voilà, on sort de nos habitudes, on se décentre, mais il faut cadrer et accompagner aussi tout ça, et c'est tout l'intérêt du coup du travail des boutiques des sciences, en effet. Et ben merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Il y aura peut-être des questions après, mais on va passer au cas de Lucade, et puis comme ça on fera voilà les questions pour tous les quatre peut-être après. Donc je vais passer la parole à Hassan pour voilà qui nous présente un petit peu le contexte et le fonctionnement de la boutique des sciences de Dakar. Je te laisse la parole.
Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je crois que vous voyez mon écran.
Oui, c'est tout bon.
Voilà, donc moi c'est Hassan Fall, je suis le manager de l'Amba Learning Center, donc un centre d'apprentissage qui se trouve à 100 km de Dakar, et membre fondateur de la boutique des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, intitulée Xam Xam Ñop Ngir Ñop. Donc c'est un mot en wolof qui signifie savoir de tous au profit de tous. Donc, je vais vous parler de la création du statut et du fonctionnement de la boutique des sciences de l'UCAT, qui a été créée par le professeur Diaye Diouf en collaboration avec moi-même et d'autres étudiants et collègues qui sont formés au niveau de l'EBAC. Donc, pour ce qui est de la création de cette boutique des sciences, je voudrais bien en fait rappeler en fait l'historique de cette création, donc qui a été initiée lors d'une collaboration avec l'Université de Laval, donc dans le cadre du projet SOHA, donc c'était en 2015. Dans ce projet, on a beaucoup travaillé avec le professeur Florence Piron, donc qui nous a quittés récemment. Et lors de cette, après avoir travaillé sur ce projet, donc on a jugé nécessaire de mettre en place cette boutique des sciences parce qu'en fait, c'était pour nous en fait une continuité du projet SOHA. Parce que tout simplement, dans le projet SOHA, on parlait de ces choses-là, de boutique des sciences, des sciences ouvertes, voilà, de la collaboration et, avec, entre les universitaires et les communautés. Donc, c'était pour nous une continuité. Donc, aussi, il faut noter que la boutique des sciences de l'UQAD, c'est une boutique des sciences pluridisciplinaire. Donc, nous, on ne fait pas focus sur une spécialité ou bien sur un seul domaine. On travaille pratiquement avec tous les chercheurs, donc, que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'agriculture, de la santé, dans le domaine voilà, des sciences sociales aussi. On travaille avec pratiquement tous les chercheurs parce que tout simplement, l'université de l'UQAD, c'est une université pluridisciplinaire. Donc, on est obligé d'être en quelque sorte transversal. Voilà, et puis il y a le slogan de la boutique, donc comme je l'ai dit, donc savoir de tous pour tous, donc il y a un slogan de socialisation, donc qui est également un terme très très fort quand on parle de boutique de sciences, et quand on parle de collaboration, d'impact envers les communautés. Voilà, donc il y a également une équipe qui est composée comme je l'ai dit, M. Diouf, de moi-même et de Binter, qui va faire la suite de la présentation, et aussi d'autres étudiants qui nous accompagnent dans ce travail-là, donc des étudiants qui sont formés au niveau de l'EBAT à l'Université de Charles de Gaulle. Il y a également des chercheurs avec qui nous travaillons, ça peut être des chercheurs de la faculté des sciences, des chercheurs de la faculté de droit, des chercheurs de la faculté des médecines, ou bien même des chercheurs de l'école de bibliothécaires à Sciences Po de l'UQAD. Donc, ces chercheurs-là, en fait, ils nous accompagnent sur des projets scientifiques que nous déroulons. Et ces projets-là, nous cherchons à impacter, en fait, les communautés pour pouvoir résoudre des problèmes, comme le veulent les boutiques des sciences. Donc, il y a aussi ce dernier aspect-là de la création de la boutique, qui est notre logo, qui est également très, très symbolique pour nous. Et je pense aussi pour toutes les valeurs et également les missions d'une boutique des sciences. Donc, dans ce logo-là, nous avons en quelque sorte le baobab, donc, qui est un symbole voilà, pour le Sénégal. Et puis, dans le baobab, vous voyez, en haut, il y a en fait c'est les chercheurs qu'on trouve en haut. Et en bas, il y a la communauté. Donc, juste pour faire le lien entre la communauté et les chercheurs, pour dire qu'en fait, ça ne doit pas être voilà, de communautés éloignées, mais plutôt rapprochées. Et le baobab ici est en quelque sorte un pont entre les communautés et les chercheurs pour pouvoir travailler ensemble. Donc, concernant le statut de la boutique des sciences...
Excusez-moi, on ne voit pas défiler votre PowerPoint, il est bloqué à la première diapositive et je pense que ce que vous commentiez à l'instant, c'était probablement la diapositive 3, j'ai l'impression.
Oui, ah, excusez-moi. Est-ce que là, vous voyez?
Non, ça ne bouge toujours pas, peut-être départager et tenter de repartager l'écran.
Voilà.
Ah, ça y est, là, c'est la deuxième.
Là, c'est bon?
Oui, là, on est sur la deuxième.
Est-ce que là, c'est bon?
Oui.
Troisième, c'est bon?
Non, pas de mon côté, mais peut-être ça va arriver.
Voilà, on va la troisième. Il y a peut-être un petit décalage. Merci.
Voilà, donc je vais rester sur ce modèle-là. Donc, je disais tout à l'heure que ça, c'était le logo, donc qui est également un symbole très fort de l'historique de la création de la boutique des sciences. Donc, j'étais dans ce diapo-là pour parler du statut. Donc, pour le statut de la boutique des sciences, nous sommes en attente d'une reconnaissance par les autorités de l'Université de Antioche, puisque la boutique des sciences est est logé au niveau de l'UCAT. Mais quand même, cela ne nous empêche pas de dérouler des activités, d'être dynamique. Et actuellement, la boutique des sciences est en phase d'engrenage donc institutionnel, et nous menons des plaidoyers auprès de la direction de l'EBAT, qui nous accompagne dans ce sens, mais également au niveau de la rectorat, d'accord. Récemment, quand on participait à la rencontre à Tunis, il y a quelques années, on avait eu l'accompagnement du rectorat, qui était bien au courant de cette activité-là. Aussi, le LACIC, donc, qui est une école doctorale, donc, qui est basée au niveau de l'université également. Donc, je pense que ça, c'est des structures qui nous accompagnent, des institutions pour nous permettre aujourd'hui d'aller vers cette reconnaissance-là par l'université. Nous menons également des rencontres régulières au niveau de la boutique des sciences avec les membres qui les composent. Donc, je rappelle que tout le personnel de la boutique des sciences, en fait, c'est des gens qui sont en fait volontaires, qui participent aux activités de la boutique, qui développent la boutique, mais ce n'est pas en fait des fonctionnaires qui sont payés ou quelque chose comme ça. Donc, tout se base actuellement sur le volontariat. Et c'est une équipe assez dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure, composée de quelques membres, des étudiants aussi, des chercheurs avec qui nous travaillons. Donc, pour ce qui est du fonctionnement de la boutique, donc c'est basé sur un engagement du service à la communauté. Je pense que le professeur Gaytouf l'avait souligné lors de la dernière rencontre, disant qu'il y a une loi qui impose les universités à s'engager pour le service à la communauté. Donc, ça, c'est une très bonne base parce que ça nous permet, nous, d'argumenter, en fait, nos activités, de dire que les chercheurs ont cette obligation-là, en fait, d'accompagner les communautés, de faire du service à la communauté, mais également d'essayer d'impacter ces communautés-là de façon positive. Donc, raison pour laquelle le fonctionnement de la boutique des sciences se base sur ces principes-là. Donc, il y a aussi la collaboration avec des chercheurs et des instituts de recherche. Et quand je parle d'instituts de recherche, il y a l'IRD surtout et l'AIF. Je pense que Binta va revenir sur le travail que nous avons mené avec ces instituts-là et qui est un travail vraiment très, très intéressant pour nous, très important aussi, parce que tout simplement, on a pu développer avec ces instituts-là des projets que Binta va détailler plus tard. Donc, nous essayons également d'évaluer et de mesurer les impacts sur les communautés, parce que tout simplement, en fait, ce travail-là, c'est très important pour nous. Ça nous permet non seulement de garder en expérience le travail qu'on a pu faire depuis le début, mais également, ça nous permet de servir de ces données-là, de ces études-là, de ces évaluations, pour en fait mener un plaidoyer auprès des autorités pour leur dire que voilà, même en étant des volontaires, voilà le travail qu'on est en train d'abattre, et voilà l'impact que nous sommes en train de mener auprès des communautés. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et qui va nous permettre d'aller plus rapidement vers cette reconnaissance-là. Donc, c'était tout pour ma présentation. Donc, je vous remercie et je passe la parole à ma collègue Binta Bari. Merci beaucoup.
Super, merci beaucoup. Eh ben, on écoute Binta et puis on reprend les questions ensuite. Si ça vous va, est-ce qu'elle est parmi nous?
Oui, je suis là.
Super. Eh ben, on t'écoute. Partager ton expérience. Je ne sais pas, Hassan. Oui, voilà, si tu peux arrêter ton partage d'écran. Parfait. C'est bon.
Bonsoir tout le monde. Vous voyez mon écran?
Oui, c'est bon.
Vous m'entendez, c'est bon?
Oui, 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 c'est parfait.
Bonsoir, chers collègues. Moi, je me présente, je m'appelle Binta Bari. Je suis assistante de l'Institut de recherche pour le développement IA et partie du groupe de de mon fondateur d'application. Bon, je m'en vais vous présenter les projets développés par l'AUF, accompagnés par la boutique des sciences de l'UQAT, avec notre chère professeure, Madame Djéi Diouf, qui nous a encadrés, qui nous a formés pour mener à bout nos projets ensemble. Voilà, je crois que vous voyez l'écran et c'est bon.
Bon,
des exemples concrets d'activités qui ont été menées par la boutique des sciences. Oui, je parlais des activités qui ont été menées par la boutique des sciences à travers les projets du PARFAO. PARFAO qui visent à promouvoir l'agroécologie par la recherche et la formation en Afrique de l'Ouest, au profit des pêcheurs artisanaux d'agroécologie et les associations de femmes transformatrices des produits halieutiques. Comme ici au Sénégal, nous avons l'association des femmes transformatrices et des produits halieutiques. Nous sommes partis à leur rencontre et à travers leur rencontre, nous visons sur l'oralité pour acquérir, regrouper et savoir leurs conditions et savoir leurs besoins. Nous partons avec l'oralité, c'est-à-dire les langues nationales, dans un cadre inclusif pour interagir avec les scientifiques et les non-scientifiques. Pour cela, plusieurs rencontres ont été menées. La boutique de sciences, l'AUF et l'IRD ont rencontré les associations. La boutique aussi avec les scientifiques, avec l'AUF, ont aussi à recueillir des préoccupations des femmes transformatrices des produits halieutiques ainsi que des chercheurs. Nous avons aussi décliné une méthodologie de travail avec l'AUF et l'IRD. Accompagné de la boutique des sciences. Il y a aussi, dans les rencontres, il y a aussi une proposition de la boutique des sciences acceptée qui est sur les ateliers de PARFAO. Parce qu'il y avait plusieurs ateliers, dont l'atelier dénommé COLAP, qui est une nouvelle approche pour la construction, l'innovation, qui a regroupé l'IRD, l'ISRA, qui est l'Institut scientifique de recherche agricole, et l'UQAD, les entrepreneurs, les incubateurs, le programme alimentaire mondial, le PAM, l'éléphant vert, Action AID, l'ENTA Promat et SORECO. Il y a des ateliers que nous avons menés durant durant l'année 2018, il y avait le week-end des solutions ou USOL. Il y avait, suite à la réussite de l'atelier par il y avait une parole des acteurs scientifiques. Les enseignants, comme par exemple les enseignants de l'Université Cheikh Anta Diop, les chercheurs de l'IRD, les chercheurs de l'UQAD aussi. Il y avait aussi des doctorants. Je reprends ou bien je continue? Est-ce que vous avez entendu la présentation?
Oui, c'est bon. On a juste eu une phrase qui manquait, mais du coup, tu peux reprendre.
À quel niveau?
Il n'y a pas de souci. Bon, on était sur le week-end des solutions et voilà. Mais je pense qu'on n'a pas loupé beaucoup, donc tu peux continuer là où tu t'étais arrêté.
Voilà, je crois qu'on était au niveau du week-end des solutions, oui, seul. Je disais que ce week-end des solutions, c'est par la suite des ateliers de PARFAO que nous l'avons fait et qui a regroupé plusieurs acteurs, les enseignants de l'Université Cheikh Anta Diop et des chercheurs, des doctorants, de l'université, mais aussi de l'Institut de recherche pour le développement IRD, et que nous avons accompagné. Il y avait aussi les non-académies, il s'agissait des associations des pêcheurs, les agriculteurs et les écologistes. Les activités ont été menées à Dakar et à Saint-Louis du Sénégal. Un atelier de 2 jours rassembla aussi des activités précédentes de Collab, les ateliers de du Parfao. Voilà. Il y avait des défis suivant les ateliers. Comment renforcer la visibilité de la et la valeur des produits locaux. Parce que avec les transformations des produits alimentaires de ces produits locaux, aussi il y a des sous-bits pour valoriser et pour la deuxième point, le B, comment mieux impliquer les producteurs dans les processus agricoles. Ensuite, comment réduire le nombre d'intermédiaires dans les chaînes de distribution de fruits et légumes locaux. Il y avait aussi le dernier point qui était comment améliorer les techniques de transformation des produits agricoles au niveau semi-industriel pour les femmes en milieu rural. Parce que les femmes qui sont en milieu rural pourraient inventer des matériels pour qui leur permettraient de mieux faciliter le travail. Pour le CRT, l'équipe a aussi animé des activités, des spectacles, des sketchs en langue nationale, le Wolof, avec un groupe Espoir de la banlieue, dont le directeur, le réalisateur est un étudiant de l'EBAD. Bon, pour dire que l'EBAD forme aussi des acteurs qui ne sont pas seulement sur au niveau de la recherche de la formation documentaire, que les acteurs aussi font de la recherche de la formation documentaire. Les sketchs sont interprétés par le biais d'une traduction que nous avons assurée nous-mêmes. Les acteurs impliqués dans la sélection, il y avait des enseignants-chercheurs. Les chercheurs de l'UCAD, de l'IAB et du master doctorat ont soutenu leur mémoire sur le thème de la boutique des sciences. Il y avait aussi des acteurs du secteur économique informel, les communautés de pêcheurs artisanaux, les associations des femmes transformatrices de produits alimentaires, les agriculteurs écologiques et éleveurs, les associations et mouvements de la société civile sénégalaise, les ONG, tout en quête de solutions à des problèmes sociétaux. Les acteurs ont été nombreux parce qu'ils sont tous à la recherche de l'information. Voilà, pour terminer, la boutique de sciences de tous au profit de tous, qui est notre slogan, Khamkhamounyep Ngirnyep, a joué un rôle de cadre de partage entre enseignants, enseignés et communautés, en usant d'un accompagnement innovant de la société civile et des scientifiques. Ce qui a permis un meilleur accès des communautés à l'expertise des universités de façon innovante. Je vous remercie, chers participants, et je m'excuse des désagréments et quelques soucis. Merci.
Pas de souci, merci beaucoup Binta pour ta présentation. Merci vraiment pour ces expériences. On voit que les sujets sont très variés et les méthodologies aussi mobilisées avec aussi les arts vivants. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est intéressant aussi, on voit ce point commun entre les deux expériences aussi de l'importance de l'usage de la langue et de faire aussi les allers-retours entre langue utilisée dans l'académie et puis langue locale, voilà, qui est vraiment centrale et sans doute trop peu pratiquée par d'autres types de recherches. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si Hassan peut-être vous voulez répondre à la question que je posais tout à l'heure sur le fait que tu as parlé d'une loi qui impose cette notion de service à la communauté, mais du coup est-ce qu'il y a aussi du temps dédié pour ce type de projet, ou est-ce que là aussi, comme en Tunisie, la question de la reconnaissance de ce type de recherche est encore problématique? Et puis je donnerai la parole ensuite à Dieyi qui voulait prendre la parole. Peut-être, oui, peut-être qu'elle veut répondre directement à cette question-là. Vas-y Dieyi, tu peux prendre la parole si tu le souhaites.
Voilà, bonjour tout le monde. Désolée pour les désagréments du début, pour la connexion. Cette loi, dans plusieurs pays, dans plusieurs universités africaines, permet en tout cas aux chercheurs qui n'étaient pas autorisés ou qui n'avaient pas le temps de pouvoir consacrer une partie de leurs activités à faire du service à la communauté. Si on observe l'architecture des universités, si on observe les activités qui se déroulent dans ces universités africaines, on se rend compte que tous les chercheurs font du service à la communauté, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, parce que c'est lié étroitement avec leur discipline. Et cette loi ne fait que renforcer ce qui existait déjà. Mais cela ne veut pas dire que la loi activé ou fait bénéficier aux chercheurs d'une quelconque possibilité d'exercer par la force. Ce n'est pas obligatoire à leur niveau. Alors qu'une loi le dit, et si une loi le dit, en principe, ça devait être obligatoire. Et ce qu'on a fait pour les inciter à faire du service à la communauté, c'est qu'on a, on a inclus dans l'avancement des enseignants-chercheurs ce volet-là. Ça veut dire que les enseignants-chercheurs qui font du service à la communauté gagnent plus facilement des points pour passer en grade supérieur que les autres qui n'en font pas. Et donc, voilà un peu ce que dit la loi. Et certains l'ont bien compris et pratiquent strictement ce qui est dit dans la loi. Mais jusque-là, ça traîne quelque part. C'est pour cette raison que cette boutique des sciences n'a pas encore une reconnaissance institutionnelle, malgré les résultats, malgré la valorisation des savoirs locaux qu'on fait à travers ces activités.
Merci beaucoup. Florence voulait prendre la parole et puis Bertrand Boquet ensuite.
Ouais, merci, c'était vraiment très intéressant. Je me demandais dans votre discours de lobbying auprès de vos gouvernances dans les universités ou dans les collectivités, dans les pouvoirs locaux, les pouvoirs politiques locaux, quels sont selon vous les éléments qui les intéressent et ce pourquoi ils sont prêts à le soutenir et les obstacles d'un autre côté?
Merci beaucoup, Florence. En fait, les autorités vous disent toutes que c'est intéressant, on a besoin de ça, mais le problème, c'est le statut. Il faut donner un statut à ces cadres que sont les boutiques des sciences, d'abord, pour qu'elles aient le pouvoir requis pour pouvoir agir et faire interagir les chercheurs. Le volet administratif est très lourd dans ces universités. Il faudrait, pour qu'une structure de cette nature soit reconnue et qu'elle puisse faire correctement son travail, il faut avoir un statut, il faut être associé à un laboratoire ou une direction, en tout cas, qui s'active dans ce sens. Et les directions ne manquent pas parce qu'il y a la direction du service à la communauté qui existe déjà dans l'université, mais ce qui bloque, on ne comprend pas trop pourquoi ça bloque alors qu'on a reconnu l'importance, on a vu les résultats, mais voilà, c'est comme ça.
Est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter quelque chose?
Vas-y, Hichem.
Voilà. Je rejoins tout à fait donc, le point de vue de Dieyi sur la nécessité de rendre un peu les choses officielles. Maintenant, c'est en poussant aussi à un certain changement de pratique à travers des initiatives alternatives comme les nôtres que l'on va déjà changer les mentalités. Et je pense qu'une fois qu'on aura commencé à faire vraiment du lobbying auprès des décideurs académiques, principalement, parce que c'est ça, hein, finalement, hein, c'est d'abord convaincre ceux qui nous autoriseraient à pérenniser donc, ces structures. C'est d'abord auprès d'eux que doit se faire ce plaidoyer. Et là, on peut les, je pense qu'il y a quelque chose qui est en cours, en tout cas ici. Et je pense que c'est dans, je vais dire un truc un peu bateau, mais ça va dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que ne plus impliquer la société civile ou de toute façon penser toujours de manière très auto-centrée le chercheur dans son labo, etc. C'est complètement dépassé. Hein. Plus personne ne fonctionne de cette manière. Enfin, en tout cas, plus personne ne peut se dire que. Enfin, ne peut en tout cas afficher ça, ce type de point de vue honnêtement. On promeut la collaboration, la multidisciplinarité, etc. Donc, ça va dans ce sens. Donc, je pense que c'est une question de temps. Maintenant, le souci, c'est quels vont être les principes fondamentaux de ces boutiques des sciences. Et c'est ça, à mon avis, sur lequel on doit insister. Parce que nous, c'est pour nous extrêmement important d'assurer l'équilibre des pouvoirs entre les acteurs, entre la société civile, l'étudiant, le chercheur, etc. Il ne faut pas que la boutique des sciences soit au service uniquement de l'université qui l'héberge.
Oui, c'est sûr que c'est un enjeu d'équilibre des pouvoirs qui est compliqué. Bertrand Boquet, je crois, avait une question et puis Alassane ensuite.
Bonjour, merci pour les présentations. Je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais je m'associe bien sûr à tout le monde, toute l'équipe des BDS pour faire un hommage à Florence Piron. Je la connaissais peut-être un peu moins que vous, mais pour l'avoir rencontrée quelques fois dans le cadre du réseau Living Knowledge, ce que je retiendrai, c'est une énergie quand même considérable pour développer ses activités. Et c'est vrai que pour les boutiques, développer une boutique de science nécessite l'énergie et ce qu'elle a fait au niveau international nécessite deux fois plus d'énergie. Donc voilà, je pense que pour sa mémoire, le mieux, c'est qu'on puisse continuer à développer ce réseau des boutiques francophones. Voilà. J'avais deux questions. C'était par rapport à la boutique de Tunis et vous avez beaucoup insisté sur l'accompagnement. J'aurais voulu un peu plus de précision par rapport à la nature de l'accompagnement. C'est aussi des interrogations qu'on a à Lille, à savoir quelle intensité on met dans cet accompagnement qui peut venir toucher un petit peu le travail des chercheurs ou de l'étudiant. Enfin, bon, à quel niveau aussi on remet en cause un petit peu la façon de la pratique qu'un chercheur et comment ça vient en contrepoint par rapport à l'accompagnement. Et puis pour la boutique des sciences de Dakar, il y a peut-être aussi des problématiques qui sont un petit peu différentes par rapport aux nôtres, qui sont liées ça a été dit sur l'innovation un petit peu responsable, cette notion de service à la communauté qui est apparemment davantage développé sur des aspects économiques. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres structures, parce que c'est vrai qu'en France particulièrement, des structures de transfert de technologie, de valorisation de la recherche, etc., de parcs d'activités innovants, de start-up, spin-off, etc., c'est assez conséquent. Donc, le positionnement de la boutique, il est vers des activités à but non lucratif et essentiellement les associations. Pour les boutiques de sciences en Afrique, peut-être que la problématique est un petit peu différente. Et voilà, est-ce que c'est un frein au développement des boutiques? Est-ce que ça vient en concurrence par rapport à d'autres outils en fait, qui existent au niveau économique? Voilà, merci.
Du coup, je réponds à la première question.
Oui, vas-y.
Alors nous, on a une chance exceptionnelle, c'est qu'on a eu un financement européen qui nous a permis de recruter des personnes dans la boutique des sciences qu'on a créée. Et donc, on avait ce qu'on appelle des référents boutique des sciences qui suivaient les projets. Alors, bien entendu, ce n'était pas à 100%, hein, donc certains sujets, plusieurs projets. Mais l'idée, c'est qu'il y ait toujours cet accompagnement et qu'il serve donc de support, en fait, déjà administratif et financier, ce qui est très, très important parce qu'il y a un budget. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a l'accompagnement vraiment en termes de pratique, parce qu'encore une fois, hein, on est en train de mettre en place des choses que personne n'a jamais fait, entre guillemets, ici. Et surtout, donc, s'assurer que je reviens sur l'équilibre des pouvoirs, que chacun ait son mot à dire. Et ça, c'est très, très important parce qu'on a parfois la tendance à ce que les chercheurs prennent le dessus sur l'association, que l'étudiant soit complètement écrasé par son encadrant, etc., etc., alors que bon, toute parole est bonne à entendre. Et puis, il y a des formations donc, qui, pour moi, font partie de l'accompagnement, qui sont des formations assez simples, qui est, un, la responsabilité de chacun, les aspects éthiques, les aspects restitution, enfin, en gros, tous les... et ces formations accompagnent les différentes étapes, en fait, de la collecte des besoins à la restitution. Donc voilà. Alors, on s'est pas mal inspiré de ce que font plein de boutiques des sciences. Hein. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, franchement, il y a pléthore de formations potentielles. Bientôt, bien entendu, il faut pouvoir les adapter à nos besoins, à nos priorités. Mais voilà, c'est ça pour résumer. On a la chance. En tout cas, dans le cas d'InSpice, d'avoir les ressources humaines et financières pour pouvoir le faire de manière très resserrée. Voilà.
Merci pour la question. En fait, en ce qui concerne la boutique des sciences de l'UQAD, il est vrai qu'il y a des besoins, des priorités un peu différents de ce que vous rencontrez ou de ce que vous avez en Europe. Parce que si vous avez bien compris les activités durant lesquelles nous avons accompagné l'IRD et l'AEF, vous rendrez compte que les femmes transformatrices de produits halieutiques n'avaient ni les techniques, ni la possibilité de le faire toutes seules. Et donc, il fallait déjà les aider dans les bonnes pratiques, dans les bonnes façons de le faire, etc. C'était pareil pour les agroécologistes et les éleveurs et plein d'autres acteurs de la société civile. Et donc, les réalités sont différentes. Quant aux autres mécanismes ou cadres qui font du service à la communauté, il n'y a aucune concurrence avec la boutique des sciences. Au contraire, c'est des cadres complémentaires. Sauf que chacun veut faire de son côté. Et c'est pour cette raison que j'ai confié cette année à une étudiante qui doit faire l'état des lieux sur les pratiques de service à la communauté au sein des universités publiques sénégalaises. Cela veut dire que lorsque nous aurons fait l'état des lieux de toutes ces pratiques, nous pourrons ensemble combiner nos forces pour essayer de faire quelque chose de plus consistant. Parce que si je fais du service à la communauté, une autre faculté le fait autrement ou sur d'autres cibles de la population, je pense qu'il y a lieu de combiner les forces et d'avoir un gros cadre qui permet à ces universités de travailler correctement avec les communautés. Merci.
Ben merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Alassane, je crois, avait une question, et puis je pense que ce sera la dernière.
Oui, Hélène. Allô, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Oui, allez-y, on vous entend.
Oui, merci Hélène.
Bonjour Alassane.
Je voulais saluer au passage mon professeur Diri Diouf et mon collègue Hassan Fall. Et je me présente, c'est Alassane Diouf, le directeur du Centre national des archives judiciaires du Sénégal. J'ai suivi avec intérêt les différentes interventions, mais pour un néophyte qui a voulu comprendre un peu les boutiques des sciences, quelle explication ou définition alliez-vous lui donner? Et dans le domaine judiciaire dans lequel je m'évolue, je m'active, est-ce qu'il y a possibilité de créer une boutique des sciences? Merci beaucoup.
Merci. Question complexe.
Je pense qu'il y a autant de définitions de boutique des sciences qu'il n'y a de boutique des sciences, non?
Et même qu'il y a de personnes travaillant dans les boutiques des sciences, ouais. Je pense.
Je ne sais pas, est-ce que... Bah, Dieyi, je préfère que toi, tu as plus d'expérience dans les boutiques des sciences. Je préfère que tu commences.
Merci beaucoup, Hichem. Bonjour, Alassane. Je te fais un gros coucou. C'est vrai, je ne vous avais pas reconnu, comme c'est une formation à distance. Je connais les noms, mais pas les visages des étudiants. Et c'est un plaisir de voir que vous vous intéressez aux boutiques des sciences. En ce qui concerne les définitions d'une boutique des sciences, je vais dire tout simplement, comme tout bon scientifique, que c'est un cadre qui permet en tout cas de faire interagir la société civile avec les universités. Vous savez que les universités ont l'habitude de travailler en vase clos et comme j'ai l'habitude de le dire, tous les scientifiques, que ce soit des enseignants ou chercheurs, viennent de la communauté et ne serait-ce que pour le devoir, ne serait-ce que pour une reconnaissance, quand on vient d'une communauté, on doit rendre service à la communauté. Surtout que l'argent avec lequel les gens sont formés vient du travail de la communauté. Et donc, une boutique des sciences est une plateforme de co-construction, d'échange entre scientifiques et non-scientifiques, en un mot. Et donc, on aura le temps peut-être, si vous le voulez, de passer à l'école pour qu'on puisse approfondir tout cela. Sinon, on peut faire une conférence pour l'ARCIC qui va regrouper l'ensemble des doctorants et étudiants avancés de l'UQAD. En fait, pour le domaine judiciaire, je pense que vous en avez besoin plus que tout le monde parce que vous savez, au Sénégal, les communautés ont besoin de justice, de plus de justice sociale. Et en d'autres termes, quand une femme ne sait pas par quel chemin passer pour divorcer, quand un enfant non reconnu ne sait pas comment faire pour bénéficier de l'héritage de ses parents, le domaine judiciaire a besoin bel et bien d'une boutique des sciences. Donc, à votre clavier, Alassane. Merci.
Merci, professeur. Merci, c'est gentil. C'est bien
merci
compris.
Beaucoup.
Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup pour cette définition très claire, puis qui met tout le monde d'accord, je pense, même si c'est difficile de donner une seule définition, en effet. Oui, Hichem,
ouais, je voulais juste quelque chose. Mais très rapidement, donc je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Dieyi. On se rejoint tout à fait là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours du plaisir à collaborer ensemble. Mais je voulais simplement préciser que nous, on a une spécificité, qu'on est un centre de recherche et qu'on n'est pas une université, bien qu'on encadre des étudiants. Et qu'il y a quand même une orientation peut-être un peu plus particulière qui fait que nos projets sont vraiment des projets de recherche et que ça se ressent réellement dans la manière dont ils sont abordés. J'ai vu des différences, par exemple, sur le fait que, en général, dans un projet boutique des sciences, dans une université, l'étudiant a une place un peu plus fondamentale et surtout, il est beaucoup plus accompagné par des formations, etc., etc. Nous, on a pas mal d'étudiants, par exemple, qui ont été impliqués dans des projets boutique des sciences qui n'ont pas forcément soutenu leur diplôme avec ce travail, mais qui ont donné du temps à ce projet boutique des sciences. On a pour la moitié des projets mis en place des thésards qui ont décidé de s'impliquer, de donner du temps. Voilà, c'est ça ce que je voulais préciser.
Ok. Eh ben, merci beaucoup à tous et toutes pour vos interventions, vos présentations. Voilà, tout ça sera accessible. Voilà, on fera un podcast audio de cette séance, donc vous pourrez réécouter à volonté et puis surtout diffuser les présentations que vous avez pu entendre aujourd'hui. On reste en contact, bien sûr, les uns avec les autres. C'était un plaisir de pouvoir échanger et de voir à la fois les points communs, les enjeux communs et puis voilà aussi les différences évidemment de contexte et de pratique entre les différents pays, les différents dispositifs. Donc merci beaucoup à tous et à toutes. Très bonne soirée à tout le monde, fin d'après-midi pour d'autres et puis à très bientôt tout le monde.
Merci beaucoup, c'était merci. Super intéressant.
Merci à tout le monde.
Bientôt.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir.